Bonjour, bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espace d'art et d'essais contemporains. En compagnie des artistes de la programmation régulière, nous discutons des considérations, des intérêts et des interrogations qui orientent leur pratique. Je suis Marie-Ève Charron et dans cet épisode de Point Bleu, je rencontre l'artiste Virginie Lagagnère autour de son exposition « Le silence des murs » qui a été présentée chez Occurrence du 11 avril au 8 juin 2024. Depuis 20 ans, Virginie Lagagnère développe une pratique ancrée sur des enquêtes de terrain à propos de sites qui incarnent les idéaux de la modernité occidentale. Architecture brutaliste, installation dans le roc d'une montagne, bunker, espaces de travail et monuments sont entre autres sondés dans ses œuvres, qui scrutent ainsi les comportements humains. Au sein d'installations vidéo immersives, la diplômée en arts visuels de l'UQAM présente des univers où se côtoient les faits et la fiction, dans des récits explorant les mythes fondateurs, ainsi que leur résurgence actuelle. Son travail s'interroge sur ce que sont devenues les ruines de notre modernité. Il défie l'échec des promesses d'émancipation de l'humanité en proposant d'imaginer autrement le présent et le futur. À la jonction des études culturelles, de la sociologie et de l'anthropologie, la démarche de l'artiste s'appuie sur des recherches poussées et des entrevues rigoureuses qui lui permettent ensuite de spéculer. Elle déconstruit et recompose pour mieux prospecter. Ainsi, la mise en scène et les décors se conjuguent aux documents et aux archives jusqu'à confondre leurs frontières poreuses. Souvent accompagnée de son complice invétéré Jean-Maxime Dufresne, Virginie Lagagnère a voyagé dans plusieurs villes pour mener ses investigations. Bâle, Barcelone, Turku, Espoo, Helsinki, Rome et Tokyo composent entre autres son parcours rendu possible grâce à des programmes de résidence d'artistes. Bonjour Virginie.
Bonjour Marie-Ève.
Bien heureuse de te rencontrer devant ce micro.
Pareillement.
Avant d'aller plus loin, et pour le bénéfice de l'auditoire, je vais décrire brièvement ton exposition. Quand le public se présente chez Occurrence, il aperçoit une installation vidéo. Un écran plat trône dans le coin. Il diffuse une œuvre vidéographique et sonore d'une durée d'environ 30 minutes. Devant, un mobilier prévoit une assise. Des photos imprimées et encadré sur les murs adjacents, montre l'extérieur et l'intérieur d'un lieu froid et clinique. Au sol, il y a aussi des sculptures, des prismes rectangulaires parcourus de néon ou recouverts d'une photo imprimée. Ce même imprimé crée une toile de fond derrière l'écran. C'est la vue en rapprochée d'une végétation dont le violet vibrant constitue la couleur accent de cette installation. Donc, cette œuvre nous invite, le cœur du propos, à plonger dans un lieu insolite qui se trouve à Lucan, en Suisse, à quelques pas de Lausanne. Il s'agit d'une ancienne centrale nucléaire convertie en un lieu nommé dépôt et abri de biens culturels. Donc, la question, comment as-tu découvert ce lieu et comment as-tu pu y accéder?
Oui, donc, pour répondre à la première partie de ta question, comment j'ai découvert ce sujet, j'étais en résidence avec mon complice Jean-Maxime Dufresne. On forme un duo d'artistes depuis 20 ans. Donc, nous étions en résidence en Suisse, tout près de Lausanne, au moment où j'ai appris via le réseau de la BEC, donc la résidence où nous étions. J'ai été mis au courant de ce sujet dans une conversation très anodine entre amis, collègues artistes, architectes. C'est ça, un de nos amis, en fait, il m'a mis sur cette piste. Il m'a dit « Ah, mais Virginie, ça pourrait t'intéresser. Tu t'intéresses aux fonctions, aux divers cycles de vie de l'architecture et cet endroit à Lucan est fort particulier avec cette ancienne centrale ensevelie sous la colline. » Et qui a une nouvelle fonction maintenant, aujourd'hui, un dépôt, un abri pour les œuvres des institutions muséales autour de Lausanne. Tout de suite, j'ai eu un intérêt, j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai voulu évidemment accéder à ce site qui me semblait a priori extraordinaire par son histoire. Puis, ben, ça n'a pas été facile déjà au départ parce que j'ai essayé d'abord de communiquer avec les architectes qui ont travaillé sur la conversion de cette ancienne centrale nucléaire. Il faut aussi mentionner que cette centrale, pourquoi c'est si controversé et pourquoi on en a peu entendu parler, c'est qu'elle a quand même, étonnamment, je dis étonnamment, on en a peu entendu parler, mais il y a eu un accident nucléaire quand même sérieux en 1969, soit quelques mois après l'ouverture là, officielle de la centrale. Et c'est un accident, donc, le sixième plus important dans le monde. On en reparlera probablement plus tard. C'est probablement une de ces stratégies suisses pour camoufler, si on veut, l'image imparfaite de la Suisse qui explique pourquoi on a peu entendu parler. Bref, j'ai envoyé plusieurs perches pour pouvoir accéder à ce site. Et ça n'a malheureusement pas fonctionné jusqu'à temps que je regarde qui était locataire, en fait, quelles institutions louent des espaces au DABC, donc au dépôt. Alors, je suis tombée, c'est ça, sur le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire à Lausanne. J'ai tenté de communiquer avec, vraiment sur une adresse un peu générique, j'ai pas eu de réponse, mais en discutant avec les gens de la résidence, donc à la BEC, ils m'ont mentionné qu'un des artistes précédents avait travaillé avec le Musée d'archéologie et d'histoire de Lausanne et j'ai réussi à obtenir le contact du directeur. À partir de ce moment-là, j'ai communiqué avec le directeur et j'ai eu une réponse favorable. Il m'a même invité à visiter l'ancienne centrale. Alors oui, j'étais ravie. C'était une semaine avant mon départ de Suisse, donc ça s'est fait un peu en urgence. Première impression, premier contact avec M. Pernet, le directeur. Donc c'est de cette façon-là que j'ai eu accès une première fois au site de Lucan.
Et donc, à travers le film, on découvre ce lieu avec toi que tu as pu capter en images. Des images, je le précise au passage, qui sont des plans fixes, attentifs, qui scrutent les lieux. Et donc, le regard de ta caméra nous permet de entrer avec toi dans ces espaces à l'accès limité, où là, on découvre les collections entreposées, à même un décor de science-fiction, où on voit les vestiges de cette centrale nucléaire qui a été néanmoins adaptée pour ses nouvelles fonctions. Donc, le film nous fait découvrir ce lieu particulier, mais on réalise que plus que le lieu lui-même, c'est-à-dire la centrale qui était sa vocation première, l'édifice, le parcours dans ce lieu nous apprend sur la Suisse et sur l'histoire de la Suisse. Donc, il y a des dimensions réelles qui sont révélées dans le film, mais aussi des dimensions métaphoriques qui sont révélées surtout à travers les voix hors champ de trois spécialistes que tu fais parler. Qui sont-ils et comment les as-tu dénichés?
Oui, les trois spécialistes. Donc, le premier, je viens de le mentionner, M. Lionel Pernet, qui est directeur du Musée d'archéologie et d'histoire à Lausanne. Il est aussi docteur en archéologie. A priori, je souhaitais avoir quelqu'un vraiment qui a une expérience, une expertise très particulière de ces sites-là, même de l'événement, en fait, de l'accident et de la conversion même de l'architecture. Comme j'ai tenté, c'est ça, de communiquer avec diverses personnes, même des travailleurs, des gens qui ont travaillé à l'usine, à la centrale à ce moment-là, j'ai pas eu de réponse non plus. Je crois que c'est un sujet encore un peu sensible là-bas. Donc, je racontais à M. Pernet un peu mes difficultés à réussir à trouver des gens, justement, qui ont été impliqués à la centrale. Puis, je lui expliquais également que j'étais intéressée à parler à des gens qui louent aussi ces espaces-là. Donc, il s'est tout naturellement proposé en tant qu'archéologue, mais aussi en tant que directeur du musée qui loue ces espaces et qui entrepose aussi dans ses réserves plusieurs collections. Donc, ce fut mon premier intervenant, en fait, qui a été confirmé. Par la suite, je souhaitais ardemment avoir quelqu'un qui provient du milieu du nucléaire, n'étant pas une spécialiste du tout personnellement en tout ce qui touche le nucléaire. Je souhaitais avoir un peu, des informations au sujet du nucléaire, mais aussi, c'est bien au Québec, il y a peu d'acceptabilité sociale pour le nucléaire. Puis je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir une voix qui parle du nucléaire, justement, pour peut-être démystifier certaines choses, certains mythes qu'on a dans l'esprit quand on connaît peu ce domaine du nucléaire. Donc, pour moi, il devenait évident qu'un intervenant issu de ce milieu était important, voire fondamental. J'ai fait plusieurs recherches auprès d'institutions, d'organisations en Suisse qui s'occupent de la sécurité du nucléaire, qui s'occupent de l'énergie suisse, par exemple. Différentes organisations, institutions, et encore une fois, c'est resté lettre morte. Parce que possiblement qu'un artiste qui s'intéresse au nucléaire, c'est un peu comme un travail journalistique. C'est tout autant peut-être délicat.
C'est sensible.
Oui, ça peut être sensible. Surtout venant de l'étranger, comme moi, venant du Canada. Pourtant, j'ai quand même été très transparente sur les raisons qui me motivaient à voir quelqu'un. Justement, le fait de démystifier le nucléaire dans l'esprit populaire. Ensuite, je me suis dit... Quel serait le plan B? Qui pourrait me parler du nucléaire en étant spécialiste? Et après, j'ai pensé justement au travail des universitaires, donc des chercheurs, des professeurs, des doctorants. Ils ont aussi un certain devoir de médiation avec le public. Donc, j'ai communiqué avec les écoles spécialisées à Zurich, mais aussi à Lausanne, et j'ai eu une réponse positive de l'EPFL, l'École polytechnique de Lausanne. C'est quelqu'un qui est directeur d'un laboratoire, le laboratoire Crocus. C'est un laboratoire où il a été construit un petit réacteur pour des fins pédagogiques. Donc, le réacteur est fonctionnel et il produit de l'électricité, donc de l'électricité à partir du nucléaire. Et ça a été possible pour moi de visiter ce site-là, de visiter le laboratoire, lorsqu'il était non fonctionnel, évidemment, pour ne pas être irradié. Et la personne en question, donc le directeur, qui s'appelle Mathieu Ursin, il est également maître d'enseignement. Donc j'ai pu l'interviewer sur ces questions-là. Ensuite, lors d'une résidence en Suisse, donc en 2021, j'ai rencontré Mathieu Jacquard, qui est un historien de l'art et architecte. Et la particularité des recherches de Mathieu Jacquard, c'est qu'il s'intéresse énormément au territoire du canton de Vaud. Il organise, en compagnie de ses acolytes architectes et historiens, des marches autour du lac Léman pour discuter et réfléchir sur les aménagements, sur l'évolution de l'architecture et des aménagements paysagers. Donc, connaissant avec les années, donc ça faisait 3 ans que j'allais en Suisse, j'ai développé, c'est ça, une certaine relation d'amitié avec Mathieu Jacquard. Je me doutais bien qu'avec lui, j'allais pouvoir réussir à dénicher un discours qui sort un peu du discours, si on veut, superficiel, du discours aussi très académique, qui allait apporter un esprit très critique par rapport à la Suisse. Parce qu'en dehors de ses intérêts pour l'architecture, il s'intéresse énormément aux injustices sociales, puis aux injustices créées par le capitalisme, par exemple. Alors, je me suis dit que c'était une personne précieuse pour mon projet, en fait, pour aborder d'autres formes de récits, en fait, qui sont au-delà du récit dominant.
Par rapport à la Suisse?
Par rapport à la Suisse et aussi par rapport à cette histoire de centrale, donc le cœur du projet, qui a été converti en centre d'entreposage pour des œuvres muséales, pour des trésors patrimoniaux.
Parce qu'a priori, on pourrait voir dans cette conversion comme une réhabilitation du lieu pour soutenir une vocation qui est meilleure, qui est plus, qui est moralement plus élevée. Mais en même temps, en écoutant tes spécialistes parler, justement, il y a plusieurs points de vue critiques qui sont soulevés par rapport à la Suisse, par rapport à des enjeux politiques, par rapport à l'image de la nation telle qu'elle est construite pour être diffusée à l'étranger. Et ça me ramène à toi. Toi, comme artiste, tu arrives en Suisse, tu l'as mentionné, c'est pas la première fois que tu allais en Suisse. T'es quasi une habituée. T'as fait quelques résidences d'artistes, t'as fait déjà des projets en compagnie de Jean-Maxime Dufresne sur des sites suisses. Donc, tu poursuis cette démarche autour de la Suisse où tu nous amènes à voir différemment la Suisse, de laquelle on a une vue un petit peu plus romantique, avec la beauté des paysages, la beauté des montagnes. Et donc, les voix de tes spécialistes, progressivement, nous dévoilent des aspects peut-être qu'on préférerait dissimuler à propos de la Suisse. Est-ce que tu peux nous en dire davantage?
Oui, bien, en fait, l'intention de ce projet-là, en fait, au départ, je voulais vraiment sonder l'idée des cycles de vie de l'architecture, en fait, de cette architecture particulière où il y a eu l'accident. Donc, déjà, cet accident qui a été peu médiatisé, autant à l'intérieur de la Suisse qu'à l'extérieur de la Suisse. En fait, lorsque je discutais, c'est peut-être aussi une question générationnelle, hein, parce que l'accident a eu lieu en 69. Mais lorsque je discutais de cette ancienne centrale, les gens autour de moi étaient peu au courant lorsque j'étais en Suisse. Encore une fois, il y a un filtre le filtre de la réalité qui s'est déformé à travers justement l'image idyllique peut-être que la Suisse ou n'importe quel État ou pays souhaite démontrer à l'international, mais aussi nationalement. Et à travers ces recherches-là que j'ai faites, à travers mes recherches, les différentes enquêtes, je m'intéressais aussi à l'aspect social, donc aux aspects politiques sociaux. Quels sont les legs, finalement, de cette architecture, de ce modernisme architectural au sein de la culture suisse? Puis quel parallèle on peut faire entre ce désir d'émancipation, parce qu'il y avait réellement ça aussi pour la Suisse, pour se lancer dans le nucléaire. La Suisse, c'est un petit pays, hein? Puis il y avait la course au nucléaire dans ces années-là. Les années 50 aussi, il faut le rappeler, c'est les années de l'optimisme technologique. Puis la Suisse voulait faire partie de cette course. Et en faisant partie de cette course et en ayant malheureusement peu de savoir-faire. Donc, il y avait cette fierté nationale qui voulait être... qui avait le souhait d'être développée, mais... C'est ça, le savoir-faire était peut-être un peu, disons, défaillant. Donc, il y a eu cet accident. Ça a vraiment coupé court au nucléaire
100%. Il n'y a pas eu d'autres projets par la suite.
Il y a eu des projets d'usines nucléaires qui existent encore hein, en Suisse alémanique notamment, mais c'est aussi avec l'expertise des États-Unis, même l'expertise de l'Allemagne. Donc, des centrales 100% suisses, non, ça a vraiment coupé court au projet. Donc, ça a piqué énormément ma curiosité. Et les récits dominants, oui, m'intéressent pour ma culture personnelle, évidemment. Mais les récits dominants, de quoi ça parle aussi de qui a cette possibilité ou ce privilège même de s'exprimer publiquement. Dans un contexte d'hypermédiatisation, dans ce contexte-là, en tant qu'artiste, je pense que notre rôle, c'est aussi de jeter un éclairage sur d'autres types de récits, d'ouvrir peut-être d'autres imaginaires qui font peut-être contrepoint aux imaginaires très présents, dominants dans notre société. Puis c'est pour ça que c'était important pour moi aussi d'aller chercher des chercheurs locaux, des intervenants locaux, qui puissent aussi me parler de la Suisse de façon à... pas embellir, en fait, la Suisse. Parler de la Suisse, finalement, autant dans ses forces, mais autant dans ses parties peut-être plus sombres, je dirais. Et c'est à partir de ce moment-là que je trouve que ça devient intéressant de construire un imaginaire, pas que à partir du sombre, mais à partir de, finalement, personne n'est complètement... l'image de la perfection, on sait qu'à un moment donné, ça casse, puis... c'est un peu surfait, c'est un peu superficiel, donc...
C'est ça, l'ancienne centrale nucléaire en elle-même devient une métaphore de ce que le pays veut cacher, veut préserver, comme tu le dis si bien, dans l'ombre. Et notamment, ton film dévoile... en fait, c'est un des intervenants qui soulève la question. Il y a peut-être des artefacts, des œuvres qui sont abritées dans cet espace, loin des regards. Puis c'est une bonne chose, finalement, qu'on les tienne loin du regard, parce que la façon dont on les a obtenues, c'est peut-être pas des manières qui sont aujourd'hui acceptables. Alors, j'aimerais savoir, Virginie Lagagnère, là, dans 5 ans, dans 10 ans, quelle autre... cible Va-t-elle viser quel autre lieu? Vas-tu nous dévoiler quel autre site, quel autre récit moderniste? Là, je lance ça vraiment très largement comme ça, mais une autre façon de te poser la question, est-ce que tu as déjà en tête la prochaine destination qui va nourrir tes recherches?
Bien, en tant qu'artiste, on le sait, on envoie plusieurs perches à différents endroits pour qu'une de ces perches puisse fonctionner. Donc, souvent, il y a plusieurs projets qui sont naissants, mais que certains projets n'ont pas eu la chance d'être développés. D'autres, en raison de certaines circonstances, ont pu être développés. Et je dirais que je réalise que lorsque je voyage, que je suis en séjour à l'étranger, plus j'en découvre sur un pays, sur un territoire, sur les gens, socialement, comment ça fonctionne, plus j'ai envie d'en savoir davantage. C'est une sorte de curiosité qui est peut-être commune, là. Je pense pas que je sois exceptionnelle là-dedans. Donc, il y a des projets qui sont en train, disons, de germer. Un pour la Suisse, un autre pour le Japon, notamment avec Rena Kano, qui est une anthropologue avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Puis on est en train de développer un nouveau projet avec elle. Je ne peux pas encore rentrer trop dans les détails parce que c'est en train de se développer. Avec Jean-Maxime, dans notre pratique en duo, on a quand même aussi envie de revenir au Québec. En ce sens que on a beaucoup travaillé certainement à l'étranger là, de manière individuelle puis de manière en duo, là, de manière collective. Mais je pense qu'on est rendu au stade où on a envie de étrangement de revenir un peu sur notre territoire puis d'essayer de regarder notre territoire peut-être avec un regard différent puis de collaborer avec des gens d'ici, des scientifiques d'ici. On a quelques idées, mais c'est encore tout en émergence, là. Il n'y a rien de vraiment précis et confirmé. Oui, exactement.
Alors que ce soit à l'étranger ou ici, on va se faire un plaisir de te suivre dans tes prochaines aventures. Virginie, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci beaucoup, Marie-Ève, pour tes questions très pertinentes et très intéressantes aussi.
Merci. À l'animation, Marie-Ève Charon. Au montage et à la réalisation, Gabriel Arnois-Blouin. À l'identité visuelle, Marion Paquette et Alban Loussely. À l'arrangement musical, Fanny Jeanne. Point Bleu est une production d'Occurrence sous la supervision de Lily Michaud, d'après une idée originale de Mathilde Varanès.